Super de te revoir aussi, Nicolas. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas croisé. Sympa. Sympa de se recroiser aussi ici. Et c'est chouette. C'est chouette. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu un culte spécial, vu qu'il y a un temps d'information après le culte, avec un temps d'apéro. Ça, c'est le moment aussi tant attendu. Mais j'espère que vous attendez aussi la parole de Dieu. Alors le conseil m'a demandé aussi que le temps de louange soit un petit peu plus court. Alors ça, c'était pas tellement mon problème. Que la prédication soit plus courte. Et là, il y en a qui en doutent déjà d'avance, hommes ou femmes de peu de foi. Mais voilà. Donc je vais essayer de rester sur quelques pistes. Donc ce sera plus un encouragement. Et certains rappels au travers de certains versets bibliques, plus qu'une prédication très très longue ou comme ça, ou bien fournie, mais un rappel aussi de certaines vérités qu'on trouve dans la parole de Dieu, et ça fait du bien aussi. Donc, je vais aller à l'essentiel. Et le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est cet appel de Dieu sur notre vie. Et le fait qu'on est choisi et qu'on est établi afin d'aller et de porter du fruit. Dans Jean 15, verset 16, il est écrit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Je ne sais pas vous, mais ce genre de verset, surtout la petite fin là. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ça demande une certaine dose de foi quand même, hein. Et pourtant, c'est écrit dans l'évangile de Jean. Ben, c'est l'évangile de Jean que je viens de lire, enfin, en tout cas le verset 16. Et ce rappel que. Oui, on peut se dire, on se détermine pour notre Seigneur, on se positionne évidemment, vous avez choisi de croire, mais Jésus dit, c'est pas complètement vous, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alors, super, mais pourquoi? Ben, je vous ai choisi, je vous ai établi dans un but, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Beaucoup de personnes se disent, ah, mais c'est quoi le projet de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Des fois, on entend, ah, il faut que tu aies des rêves pour Dieu. Moi, j'aimerais vous dire, mais Dieu a un rêve pour vous. Dieu a un rêve pour vous. Et je préfère dans ce sens-là que d'avoir des grands rêves. Je me dis, mais j'aimerais rentrer dans le rêve de Dieu pour ma vie. Et c'est aussi ma prière pour chacune et chacun d'entre nous qu'on entre dans ce rêve de Dieu pour notre vie. Parce que là, ce verset nous dit finalement, ben, c'est moi, Jésus-Christ, c'est Dieu qui vous a choisi, qui vous a établi. Pourquoi? Ben, pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et ce fruit, pour qu'il demeure, ben, il faut qu'il soit aussi en accord avec la parole de Dieu. Alors cette déclaration de Jésus nous rappelle une vérité fondamentale. Eh bien, notre appel ne vient pas de nous, mais de Dieu lui-même. Il nous a choisis selon son dessein souverain, il nous établit pour accomplir une mission et il nous équipe pour porter du fruit qui va glorifier son nom. Vous avez été choisis par Dieu, mes frères et sœurs. Vous avez été choisis par Dieu. Et l'élection de Dieu ne repose pas sur nos compétences, sur nos mérites, sur nos origines, mais uniquement sur la grâce et la volonté de Dieu. Si vous lisez dans la Bible, la parole de Dieu, quelques exemples d'êtres humains, d'hommes et de femmes choisis par Dieu, on voit Abraham qui a été choisi pour devenir le père d'une grande nation. Il n'a rien demandé. Il n'a rien fait d'extraordinaire, si ce n'est qu'il a cru à Dieu. Genèse 12, on voit qu'il a été choisi. Dieu l'a appelé à quitter son pays pour un avenir inconnu. Comme plan de carrière, il y a mieux, hein. Tu quittes tout, tu vas là-bas. Ok, d'accord. C'est pas du tout rationnel, c'est pas du tout logique. Pour un avenir inconnu, mais rempli de promesses. Il a cru. Dieu l'avait choisi, l'avait établi pour un rôle particulier. Moïse a été appelé pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Exode 3. Pourtant, Moïse était timide, il craignait de parler en public, il bégayait ou je ne sais pas quoi. Il a même essayé de négocier avec Dieu. Finalement, Dieu lui a dit « Bon, ok, je te donne Aaron pour parler à ta place ». Il l'a fortifié pour accomplir sa mission. Il vous laisse débiner. Dieu l'avait choisi aussi, il l'avait établi. David a été choisi alors qu'il était un simple berger pour devenir roi d'Israël. On trouve ça dans le premier livre de Samuel, chapitre 16. Son apparence, son statut social ne faisaient pas de lui un choix évident aux yeux des hommes, même la tribu de laquelle il appartenait. Mais Dieu voyait son cœur. Dieu l'avait choisi, l'avait établi. Et les disciples aussi, alors les disciples, si vous avez lu déjà l'évangile de Matthieu, le choix des disciples, on connaît aussi la fin, franchement, ce n'étaient pas les meilleurs. En tout cas, ce n'est peut-être pas ceux qu'on a choisis, qu'on aurait choisis nous-mêmes. Ils se bagarraient pour savoir qui serait le plus grand, qui serait le plus fort, qui serait à la droite, qui serait là, voilà. Les disciples ont été choisis parmi des hommes ordinaires pour annoncer l'évangile et impacter le monde entier. Des gens normaux. Et moi, ça m'encourage de me dire que Dieu a choisi des gens normaux. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement particulier, juste être vous-même. Des gens normaux qui ont été choisis pour impacter le monde. Et avec ces gens qui étaient de loin pas parfaits, eh bien Dieu a révolutionné le monde et l'évangile s'est répandu parmi toutes les nations, pratiquement. Alors oui, il y a encore du job, vous me direz. Tous n'ont pas encore cru au Seigneur. Et c'est pour ça que vous êtes là. Parce que vous êtes choisis, vous êtes établis aussi pour poursuivre et que vous puissiez porter du fruit. Dans Matthieu 4, vous avez peut-être lu Matthieu 4, au travers de cette lecture de l'évangile de Matthieu, on voit l'appel des disciples. Matthieu 4, 18, « Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. » C'était en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et là, c'est marqué quoi ?« Aussitôt. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est un peu barjo, hein, comme truc. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Verset 21, il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets, il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Moi, ce texte, il me... C'est pas, mais attends que j'ai fait toute la formation XXL, puis mon père, puis ci, puis ça, puis... Ce aussitôt, il me dérange des fois en quelque sorte, disant, mais c'est pas remet au surlendemain. Dans Marc 1, vous lirez, peut-être demain, si vous lisez, parce que c'est demain, Marc 1, dans la suite, vous aurez aussi le petit commentaire si vous aimez... Enfin, un petit commentaire ou petit résumé que vous pouvez trouver en ligne aussi sur Marc 1. Marc 1, verset 16 et suivant, comme il marchait le long du lac de Galilée. En fait, c'est la même histoire, hein, mais dans l'évangile de Marc. Il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin, vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivit. Bon, c'est la même histoire apparemment. Hein. C'est, faut croire qu'il y a deux témoins là qui racontent la même histoire, donc ça peut être vrai quand même. Peu importe notre passé, notre statut social ou nos capacités, Dieu nous choisit selon son plan souverain. Il ne regarde pas nos faiblesses, mais son plan parfait pour nous. Jésus n'avait pas demandé le CV, les lettres de recommandation de ses pêcheurs pour dire est-ce qu'ils vont vraiment être bons. Bon, il a même choisi un traître, Judas. C'est assez particulier. Mais enfin, il les a choisis et aussitôt, ils ont obéi. Tout comme nous d'ailleurs. Dès que Dieu nous parle, aussitôt, nous voici Seigneur, envoie-nous. Deuxième point que j'avais à cœur, vous voyez que ça avance, hein. J'ai fait un point, l'introduction, premier point, je suis déjà au deuxième point. Donc on a été choisi par Dieu, deuxième point, on a été établi pour un but précis. Dieu ne nous a pas choisis seulement pour nous bénir, mais pour qu'on devienne aussi une bénédiction pour les autres. Et j'ai trop souvent l'impression que dans notre monde, ben on fait un petit peu les choses pour nous finalement, pour se sentir bien. Et il y a beaucoup même parfois de réunions, j'appelle ça le wellness chrétien, où c'est pour se faire du bien, quoi, se fortifier la matière. Et c'est bon, hein, il faut le faire. Pour pouvoir donner, il faut aussi recevoir. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir donner, quoi, évidemment. Pour pas être de l'eau stagnante. Donc, on a été choisi pour bénir, pour être en bénédiction aussi pour les uns et les autres, établi dans un but précis. Alors, on est appelé à être la lumière du monde. Dans Matthieu 5, 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Être visible. Ce n'est pas dit qu'on devait parler, dire Jésus à tous les deux mots et demi, mais éclairer, apporter quelque chose, apporter la présence de Dieu. Comme un phare qui va guider les navires dans l'obscurité, on doit aussi refléter la lumière du Christ dans un monde en Christ. On a aussi un ministère de réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 18 à 20, dans un monde qui est... Des fois, ça fait un peu frémir quand on entend les nouvelles. On voit comment les dirigeants se chamaillent, essayent de dire « Ah ben moi, je vais te prendre le Groenland, moi, je vais te prendre ci, moi, je vais te prendre ça. » Et puis... On se dit, mais comment ça va finir? Comment les gens vont réussir à continuer de s'entendre? 2 Corinthiens 5, 18 nous dit, ben, finalement le monde c'est moi qui le tiens, mais moi je t'ai choisi, je t'ai établi. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même et ne changeant pas les hommes, ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés. Le ministère de la réconciliation, ce n'est pas juste d'être réconcilié avec Dieu, mais c'est aussi les uns avec les autres. On a reçu ce ministère. Des fois, si vous dites, mais je ne sais pas quel est l'appel de Dieu sur ma vie, mais lisez la Bible, c'est marqué, déjà ça, puis après les choses vont s'éclaircir, vont s'ouvrir, vont se décanter aussi. Déjà, si on marche dans ce que la parole de Dieu nous donne, Dieu nous envoie répandre son amour et réconcilier les cœurs avec lui. Mais impossible eh bien, de juste parler de réconciliation avec Dieu si on n'est pas capable de s'entendre avec son frère, sa sœur. D'ailleurs, il y a ce verset qui dit « Comment peux-tu prétendre dire aimer Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois ?» Donc il y a des choses qu'il faut que ça soit cohérent, c'est tout. Donc on est appelé aussi, eh bien, on a été établi dans un but précis pour être la lumière du monde, pour être la réconciliation aussi, dans ce ministère de réconciliation, mais on est aussi appelé à porter du fruit. Dans Jean 15, 5 à 8, Jésus va dire « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. » Comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. De nouveau, comme le verset que j'ai lu au début, hein, on demande et puis ça se réalise. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Du fruit. Porter du fruit. Ça me fait penser aux fruits de l'esprit aussi. Fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit. Porter du fruit pour Dieu, du fruit à sa gloire, du fruit que produit l'Esprit de Dieu. Notre vie chrétienne ne doit pas être stagnante, mais en constante aussi croissance. Demeurer en Christ, c'est aussi nourrir une relation constante avec lui, dépendre de sa grâce, porter du fruit à travers nos actions, nos caractères aussi. Et ça se traduit aussi par une vie de prière, évidemment, une obéissance à sa parole et un engagement dans l'amour et le service pour les autres. Mais tout ça, ça découle eh bien, de notre attachement à Christ. Je vous challenge un petit peu, identifier peut-être une habitude à développer pour demeurer en Christ. Comment est-ce qu'on peut demeurer en Christ? Comment est-ce qu'on peut porter du fruit? Je crois que ça passe inévitablement par la lecture de la parole de Dieu. On ne peut pas demeurer en Christ si on ne le connaît pas, si on ne connaît pas sa parole, si on ne connaît pas ce qu'il aime. La prière. Jésus, plus de 20 fois, on voit qu'il s'est retiré à l'écart, qu'il s'est mis à l'écart pour prier dans les évangiles. Si Jésus avait besoin de cette prière, de ce contact, de ce cœur à cœur avec son Père, est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut agir, prétendre agir au nom de Dieu sans demander à Dieu la direction? C'est prétentieux, je trouve. Et le service va découler. Finalement, de cette lecture de la parole et de la prière. Si on se dit, ah, il faut que je tombe dans les œuvres, et beaucoup ont dit, ah, mais il faut faire des bonnes œuvres, mais peut-être Dieu ne nous demande pas de faire telle ou telle chose. Dieu nous demande de faire ce pourquoi il nous a choisis et établis, entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et j'arrive à mon troisième point. Magnifique, ça avance. Donc on est établi pour un but précis et Dieu veut que notre fruit demeure. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et même peut-être pour ceux qui ont déjà passé quelques années de vie sur cette terre, il y a certains trucs qu'on se dit mais tout ça pour ça, tout ça pour ça. Alors on ne voit pas toujours le résultat évidemment. Il y a des gens qui ont travaillé dans des pays en mission et c'est que peut-être des années après même leur mort que des choses se sont passées. Mais il y a des fois des choses, je crois que Dieu veut aussi que notre fruit, en tout cas ce qu'on laisse, et ce fruit qui a demeuré pour ces missionnaires qui n'ont jamais rien vu, eh bien c'est un fruit qui a demeuré parce qu'il a prospéré, progressé. Et on voit qu'il y a eu un résultat. Leur travail a permis de décanter quelque chose et que quelque chose se passe par la suite. Jean 15,16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, vous établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Et le fruit que Dieu attend de nous, ce n'est pas un fruit éphémère, mais c'est un fruit durable. Quelque chose qui va permettre, même si nous on ne voit pas un résultat, eh bien que d'autres vont pouvoir construire dessus, parce que ça a libéré quelque chose spirituellement parlant. Quels sont ces fruits? Un caractère transformé, Galates 5,22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et là, chacun de s'examiner soi-même, hein. Moi, j'en prends pour mon grade en lisant ce truc, ce verset. Disons, mais est-ce que ma vie produit vraiment le fruit de l'esprit? Des fois, on pourrait dire peut mieux faire. J'avais ça dans mes carnets de notes. Je ne sais pas s'il y a encore des annotations, mais c'était toujours bien, mais peut mieux faire. C'est énervant, quoi, mais c'est comme ça. Bien, mais peut mieux faire. Des âmes gagnées à Christ, Matthieu 18, 28, 19 à 20, Ça, c'est le texte d'aujourd'hui, Matthieu 28. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse. Occupez-vous de mon royaume et je m'occuperai de vous finalement. Je suis avec vous. Notre témoignage, notre engagement peuvent conduire d'autres à la foi. Comme conduire d'autres à rejeter la foi si on a un mauvais témoignage. Si on se déclare être chrétien et qu'on a une vie qui démontre tout le contraire, ça peut aussi décourager certains. On est souvent bien observé, pas seulement avec ce qu'on dit, mais plutôt nos actions parlent. Donc là aussi. Un impact durable aussi dans notre entourage, 2 Timothée 2,2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc on a reçu et on est appelé à transmettre. Donc ce n'est pas le wellness chrétien où on fait pour nous, pour moi, pour moi, pour moi, et puis on se fait juste du bien, mais on est béni pour pouvoir bénir. On est fortifié, encouragé pour pouvoir encourager d'autres. Et bien souvent, eh bien, je pense qu'il y a cet effet, plus on donne, plus on reçoit aussi. Je ne parle pas de finances. Mais je parle aussi de notre générosité de cœur, notre générosité d'action. Il y a comme un effet. Ce qu'on transmet doit influencer aussi les générations futures. Alors, travaillons non seulement pour des résultats visibles aujourd'hui, et on peut se dire « super, on va être applaudi, ce que tu fais, c'est génial », mais ça peut être un feu de paille. Travaillons pas juste pour l'applaudimètre, dit autrement, en se disant, mais est-ce que vraiment ça va porter du fruit pour l'éternité aussi? Votre fruit demeure. Alors j'arrive à ma conclusion. Aujourd'hui, est-ce qu'on veut répondre aussi à cet appel comme les disciples? On a vu ces disciples dans Matthieu, dans Marc, qui sont appelés et aussitôt, ils ont quitté. Dieu nous a choisis. Dieu a choisi des disciples, on le voit, mais de la même manière, Dieu vous choisit aussi. Dieu vous choisit là où vous êtes, comme vous êtes, dans votre travail, dans votre foyer, dans votre famille, là où vous êtes, dans l'Église, Dieu vous choisit. Il vous a établi aussi pour une mission. Engagez-vous avec foi, avec force, avec détermination aussi. Et il veut que votre impact soit durable. Soit durable. Faites en sorte que votre vie glorifie Dieu au quotidien. Et vous verrez, ça va porter du fruit. Doutez pas de votre appel, marchez dans l'obéissance, laissez juste Dieu vous utiliser pour sa gloire. Mais n'attendez pas de la prophétie XY pour vous dire ce que vous êtes en train, ce que vous devez faire. Découvrez ça dans la parole de Dieu, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Puisez dans la présence de Dieu ce que vous êtes appelé aussi à être en Christ. Et votre fruit va immanquablement se produire. Parce que vous allez accomplir ce que Christ vous donnera dans ce lieu secret. Lorsque vous entrez, vous fermez la porte. Vous êtes là avec votre Père dans le lieu secret. Votre Père va vous parler. Amen. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Et nous encourager aussi à construire pour ce royaume de Dieu. Mais en puisant la sagesse, la force, l'amour, dans sa présence, en découvrant en lui. Jésus, merci. Merci parce que c'est vrai, ce n'est pas nous qu'on t'a choisi. Oui, un jour, on t'a dit oui. Mais c'est parce que toi, tu nous as choisis. Parce que tu nous as établis. Et Seigneur, tu désires qu'on soit en route quand tu dis qu'on aille. Pas forcément qu'on parte et qu'on parcourt le monde, Seigneur, mais qu'on soit en route pour toi. En marche avec toi. Seigneur, dans ce cœur à cœur pour toi. Je te prie pour mes sœurs, mes frères, je te prie pour moi-même, Seigneur. Seigneur, pour que, Seigneur, dans cette marche avec toi, dans ce cœur à cœur avec toi, Seigneur, on puisse entrer dans des projets que tu as préparés d'avance. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour la sagesse qui vient de toi. Merci pour l'amour qui vient de toi. Merci pour le fruit de l'esprit qui découle de ce cœur à cœur avec toi. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.